journal de midi. Paul-Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce jeudi 25 mai. Mise en œuvre en Côte d'Ivoire des activités de la feuille de route à fin mars 2023. L'ensemble des infrastructures attendues sera mise à disposition fin juin 2023, a affirmé le porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres tenu hier mercredi à Abidjan Plateau. À Yamoussoukro, un atelier de formation réunit des professionnels de la santé du 24 au 27 mai sur le fonctionnement et l'utilisation du système d'information hospitalière et ce, dans le cadre du programme d'accélération et de passage à l'échelle de la digitalisation. Hors du pays, au Soudan, militaires et paramilitaires s'accusent mutuellement de violer la trêve. Une fois de plus ce jeudi, trêve négociée par des médiateurs américains et soudanais, 4 jours après son entrée en vigueur. Un dossier d'actualité de Stéphane Adams vous sera proposé dans ce journal, un dossier relatif à la lutte contre la rage dans la ville de Mans. Et enfin, dans les 5 dernières minutes de cette édition, vous suivrez l'invité de la rédaction, Dr Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP. En compagnie de Soro Adams, se prononcera sur la radiation du président du COGEP, Charles Blégoudé, de la liste électorale. Voilà pour l'essentiel. Le bilan des activités à fin mars 2023 de la feuille de route du gouvernement ivoirien qui comporte 833 projets majeurs a été dressé lors du Conseil des ministres le mercredi 24 mai 2023. On note que des infrastructures devront accueillir la CAN 2023, celle de certaines universités publiques et de l'appareil judiciaire sont achevées. C'est ce que nous dit Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Les efforts au premier trimestre, ont porté sur la finalisation des travaux de construction des infrastructures sportives, ainsi les stades de Boaké et Yamoussoukro ont été homologués par la CAF et reçoivent actuellement les compétitions CAF-FIFA. Les travaux se poursuivent pour les stades Félix Houphouët-Boigny, le stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo et le stade Laurent Poku de San Pedro. Globalement, l'ensemble des infrastructures attendues sera mise à disposition fin juin 2023, conformément au cahier des charges de la CAN. Concernant l'amélioration des conditions de formation et d'apprentissage des jeunes, les infrastructures universitaires ont été renforcées à travers l'achèvement des travaux de réhabilitation et d'équipement de l'université Alassane Ouattara. Les travaux de la phase 1 d'extension de l'université Jean-Lorion Guédé et de l'université Péléphoro Gbon Koulibaly sont en cours de finalisation. Au plan de la justice et des droits de l'homme, les cours d'appel de Korogo et d'Aloa sont fonctionnels. Le tribunal de première instance de Boundiali, les maisons d'arrêt et de correction de Tabou, de Séguéla, de Sassandra et de Divo ont été réhabilités et la construction de la maison d'arrêt et de correction de Guiglo est achevée.
Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien. Liste électorale en prélude à l'opération du contentieux et des réclamations prévues démarrer le 1er juin prochain sur l'ensemble du territoire ivoirien. La commission électorale indépendante a procédé le week-end dernier à la formation des commissaires des 6 commissions électorales que compte la région du Kabadougou. Le compte-rendu de Bakary Touré Labasse, notre correspondant dans la région du Kabadougou.
En prélude au processus des réclamations et des contentieux à venir, les commissaires régionaux de la Commission électorale indépendante, la CEI, ont été conviés à une formation de 2 jours. On connaît Lanciné, président de la Commission électorale régionale du Kabadougou.
Aujourd'hui, nous démarrons la phase des formations. Présentement, nous avons ici, pour le département du Dini, 6 commissions électorales locales qui sont en train d'être formées ce matin. Au processus des contentieux et des réclamations.
En quoi cette opération est importante pour l'électeur ? Élément de réponse.
Fofana Daouda, membre de la CER Oudjene, le contentieux, c'est à quelque chose la réclamation. C'est-à-dire, si vous appelez avant Mademoiselle Mariam Cissé, que vous êtes mariée, vous devenez Madame Fofana. Si ce n'est pas fait, tu viens, tu réclames. On change. Ceux qui décident de changer de lieu de vote, ça n'a pas été pris en compte. Ils reviennent, donc on prend en compte. Maintenant, si vous voyez quelqu'un décider, son nom finit toujours sur la liste, Vous venez signer la personne, dit, ah, tel type est décédé, mais son nom est sur la liste. Mais a des preuves. Ça, c'est la formation du jour.
Une formation saluée à sa juste valeur par ce tout agent.
Djebaté Moussa, vice-président de la CESP au Djéné. Nous sommes très satisfaits de la qualité de la formation et surtout de ceux qui sont venus nous donner cette information-là.
Notons que l'opération des réclamations démarre le 1er juin prochain pour prendre fin 10 jours après. Bakary Touré Labbas, au Djéné, Radio de la Paix.
Parlons santé. Comme annoncé en titre, la digitalisation du système de santé ivoirien est au menu d'un atelier de formation qui initie à Yamoussoukro le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens et le programme d'accélération et de passage à l'échelle de la digitalisation. Cet atelier qui a débuté le 24 mai et qui prend fin le 27 mai 2023 vise à former les directeurs régionaux et départementaux de la santé ainsi que les directeurs des hôpitaux sur le fonctionnement et l'utilisation du système d'information hospitalière. En ligne de Yamoussoukro, Émile Yao.
Déployé depuis 2021 dans 16 établissements de santé, le système d'information hospitalière, grâce à sa généralisation, va transformer de façon évidente le paysage sanitaire du pays, explique Dr Akash Al-Koufi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle.
La digitalisation de notre système de santé va promouvoir le développement de la télémédecine qui permettra d'assurer les consultations, les diagnostics et le traitement à distance en rapprochant les spécialistes des populations.
Les résultats déjà obtenus sont plus qu'impressionnants à en croire Dr Akash Al-Koufi.
Les résultats obtenus à ce jour vous seront présentés au cours de cet atelier. Vous allez vous rendre compte que le système même a la capacité de produire et de générer les ressources dont il a besoin pour se développer. Vous verrez qu'on peut passer d'un montant de mobilisation de ressources en un an de multiplier par 4, par 5 et même plus. Il y a des hôpitaux où on faisait 80 millions de recettes et avec le SIH, on est passé à 500 millions.
Pour le déploiement de ce système innovant, le ministère de la Santé bénéficie de l'appui du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, dont Akrou Bertin est le coordonnateur adjoint.
Avec le ministère de la Santé, il s'agit de travailler sur 170 centres de santé installés, les SIH.
Pour 2023, ce sont 160 établissements sanitaires qui seront connectés au système d'ici fin novembre grâce à la Banque mondiale. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
La 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 21e journée mondiale de la santé et sécurité au travail ont réuni les acteurs du monde du travail pour échanger sur le bien-être au travail. Cette rencontre initiée par la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, a démarré le mercredi 27 mai à Ipsan Pedro et prend fin demain vendredi 27 mai 2023. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra.
La journée africaine de prévention des risques professionnels et la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, plateforme d'échange sur les préoccupations internationales et nationales en matière de sécurité, de santé et de bien-être au travail, est un cadre de réflexion sur les thématiques du moment. Quelques orientations avec le professeur Yeboah Kwame Brou-Yves, directeur de la prévention et de la promotion de la santé et la sécurité au travail à la CNPS.
L'année dernière, il y a eu une déclaration de l'OIT qui fait de la convention 155 et la convention 187 des conventions fondamentales. Cela veut dire qu'on considère aujourd'hui que la santé et la sécurité au travail sont un droit fondamental pour le travailleur. Alors, ce que nous attendons des participants, c'est que pour ce qui concerne l'insécurité routière, il faut que cela soit pris en compte au sein des entreprises. Et puis qu'aussi, les concepteurs de politique et de stratégie au niveau du ministère des Transports tiennent compte aussi de ces accidents qui concernent nos travailleurs dans les innovations qu'ils apportent.
Cette rencontre qui implique la prévention des accidents liés au déplacement routier est saluée par Sekou Kone, vice-président du Haut Conseil des Transporteurs de San Pedro.
Les gens, les voitures, tout le monde, les tricycles, les motos à deux roues, personne ne respecte les feux de couleur. Ça crée assez d'accidents. Donc cette sensibilisation, nous on est vraiment contents pour ça parce que ça va aider un peu la population.
Durant 3 jours, les différents acteurs auront à réfléchir sur un environnement de travail, de sécurité, de santé et de bien-être. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Autonomisation des femmes, créée il y a de cela 4 ans, le groupement des femmes rurales agricoles du village de Gopoupleu dans le département de Danané, appelé Kwadi, qui veut dire en langue d'an, entendons-nous, exerce dans le maraîcher et la culture du manioc. Ce groupement a procédé récemment à sa sortie officielle en présence des autorités administratives et politiques de la sous-préfecture de Kwangoulé. Le point avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tompi.
À l'honneur ce jour de la présentation des femmes rurales agricoles du groupement Kwadi, qui veut dire en langue d'an, entendons-nous, la présidente a fait un aperçu des résultats de leur labeur et des vœux formulés. Gue Estelle, épouse Bernie Naman.
Le groupement Kwadi de Gopoupleu est une association de volontaires, femmes, hommes, jeunes filles et jeunes garçons travailleurs engagés pour le développement du village. Nous travaillons la terre. Pour notre première année d'exercice, nous avons cultivé 1 hectare de haricots, j'aime, piment. Pour cette deuxième année, nous avons entamé les travaux de 2 hectares de culture de manioc, maïs, haricots, piment, j'aime et divers. Ces objectifs très prometteurs méritent des encouragements, des soutiens matériels, financiers de votre part, honorable député.
Un appel entendu par le parrain de la cérémonie, l'honorable Mélo Olivier, député des Danané.
On vous encourage à travailler dur. Parce que j'ai vu des gombos, du riz, du jam-jam, et je pense que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'on demande. Nous, vos députés, on n'a pas de budget, mais on est toujours à vos côtés pour vous accompagner. On a pour vous des pulvérisateurs, des bottes, et puis des semences de riz à vous donner, on va mettre ça à votre disposition.
L'éradication de la faim et de la pauvreté constitue les défis majeurs du groupement Kwadi de Gopoupleu. Stéphane Adams, Gopoupleu, Radio de la Paix.
En page internationale au Soudan, l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir se sont mutuellement accusés aujourd'hui jeudi de rompre une trêve négociée par des médiateurs américains et soudanais. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve le lundi dernier, aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé pour laisser partir les civils et acheminer l'aide humanitaire, observe des ONG. Dans la capitale Khartoum, la plupart des habitants vivent terrés chez eux par peur des combats et des balles perdues, souvent sans eau courante ni électricité et avec des réserves de nourriture et d'argent bientôt vides. Aujourd'hui, jeudi, l'armée a répondu avoir contré des attaques de blindés des milices du soutien rapide en violation totale de la trêve, soulignant que la guerre qui a éclaté le 15 avril dernier dans ce pays a fait plus de 1 800 morts, plus d'un million de déplacés et au moins 300 000 réfugiés selon l'ONU. Place au dossier d'actualité, lutte contre la rage à Mans. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers sa direction régionale des services vétérinaires du Tompi, procède à la vaccination de tous les animaux sensibles à la maladie. Cela fait suite au décès récent d'un homme mordu par un chien enragé dans la commune. Des détails dans ce dossier d'actualité de Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tompi.
Vraiment, il y a trop d'animaux dans les rues de Mans. Surtout les chiens, ça se promène partout. Ça fait peur.
Une peur qui se justifie par ce décès récent d'un homme mordu par un chien enragé au quartier de Moreau à Mans. Au regard de cette situation, quels sont véritablement les risques que courent les populations manoises? Docteur Nguessan Asanvo Lambert, chef de service de la santé des ruminants.
Quand il y a un foyer de rage et que vous avez des animaux qui la plupart sont errants, dès qu'un animal fait la maladie, il est susceptible de contaminer d'autres parce que l'animal, quand il est malade, toutes ses sécrétions sont contagieuses et vous contractez la maladie par morsure, par griffure ou par léchage d'une plaie. Donc le risque est réel. À partir du moment où il y a un foyer dans une zone, c'est que le risque est réel. Maintenant, comment gérer le risque? C'est de procéder à vacciner tous les animaux dans le périmètre du foyer, de l'étendre à l'ensemble du département ou de la région.
Toutefois, à la population, Dr Nguessan Asanvo Lambert recommande ce réflexe.
Quand on est mordu, griffé ou une plaie léchée par un animal infecté, la meilleure des choses possibles, c'est de se rendre au centre de santé le plus proche. Lequel centre de santé le mieux adapté pour la prise en charge d'une personne exposée, c'est l'Institut National d'Hygiène Publique, en abrégé INHP.
Dans le même ordre d'idées, Dr Zanan Koulibaly, praticien spécialiste de la santé des ruminants, fait ce rappel.
Lorsqu'on est mordu, griffé ou on a une plaie qui est léchée par un chien, la première des choses à faire avant d'aller à l'hôpital, c'est de laver la plaie avec de l'eau et du savon. bon, abondamment pendant 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? Parce qu'il a été avéré que le contact du virus avec du savon pendant au moins 15 minutes, ça tue le virus. Le virus de la raille, c'est un virus qui est sensible au savon. N'importe quel savon, hein. Que ce soit Kabakourou, savon noir, savon de Marseille, tout ce qu'on connaît comme savon. Donc il faut faire cette action-là en premier avant de se rendre à l'hôpital.
Pour la circonstance, 6 sites de vaccination d'urgence contre la rage ont été installés à travers différents quartiers de Mans. À la visite du site du quartier Grand Bapleu, Dame Da Yvette, venue faire vacciner son chien, a souligné ceci.
La rage là, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que ça fait dans le corps d'un être humain. Donc pour ne pas avoir des problèmes, toi et puis ton voisin, puis les gens qui sont aux alentours de toi, la meilleure des choses c'est de vacciner ton chien.
Pour rappel, la rage est une maladie mortelle. Elle est visée à être mondialement éradiquée à l'horizon 2023. Selon une étude économique et sanitaire, cette maladie coûte annuellement 19 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
L'invité de la rédaction de ce jeudi est Dr Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Charles Blégoudé ne figure pas sur la liste électorale provisoire. Le COGEP qui dit être dans l'attente de la phase du contentieux. On appelle toutefois à une solution politique, aussi bien du dossier Laurent Gbagbo que du dossier Charles Blégoudé. Dr Patrice Saraka, invité de la rédaction, répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, docteur Saraka Patrice.
Bonjour, monsieur Soro.
Ainsi donc, votre leader, Charles Blégoudé, ni électeur, ni éligible. Un drame politique pour votre parti, le COGEP?
Oh, je ne parlerai pas de drame politique, mais ce n'est pas une décision plaisante. Le parti ne peut pas se réjouir de cette situation qui est quand même assez grave.
Mais sur quelle base a-t-il été retiré de la liste électorale?
Selon le président de la CEI, c'est la conséquence juridique, la conséquence de sa condamnation à 20 ans de condamnation par contumace. Le président de la CEI dit que tout citoyen qui est condamné, ses mentions sont dans son casier judiciaire et donc en conséquence, il ne peut être électeur, il ne peut être réinscrit sur la liste électorale. Mais il y a une phase de contentieux qui va s'ouvrir. On va suivre donc la procédure qui est en vigueur en la matière. Évidemment, si c'est la conséquence de sa condamnation juridique, on ne va pas s'attendre à un miracle à partir de ce moment. Ce qui convient de privilégier, à mon sens, serait la voie de règlement de cette affaire par la politique, parce qu'il est important que tout soit mis en œuvre pour faire baisser la tension, surtout dans cet environnement électoral. Parce que chaque fois, ce sont ces périodes qui inquiètent beaucoup les Ivoiriens. La tension monte chaque fois qu'on parle d'élection. Et nous voulons des élections sans incident, zéro blessé, zéro mort. Et comme Charles Blégoudé l'a préconisé, il serait important que les trois grands puissent se retrouver pour évacuer ces questions, pour faire baisser la tension. Les Ivoiriens ont droit à un environnement apaisé, un environnement calme, et c'est important qu'ils se retrouvent pour régler ces questions-là.
Alors, quand vous dites régler ce problème par la voie politique, ça voudrait dire quoi?
Ça voudrait dire que dans ce pays-là, il y a eu quand même des moments où des acteurs politiques ont privilégié la voie politique pour régler certains problèmes. Pensons que la situation actuelle l'impose également. Le président Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié, c'est ce qu'on appelle les trois grands, peuvent se retrouver pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il convient de faire pour ne pas que les générations actuelles, les générations à venir aient chaque fois droit à des tensions électorales, des violences électorales, que notre pays tourne définitivement dos à la violence sous toutes ses formes, d'où qu'elle vienne.
Parce que la situation du moment vous inquiète sérieusement au COGEP?
La situation est préoccupante. La tension commence déjà à monter. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que le pire se produise avant de donner de la voix. C'est pour cela que je me plais vraiment à parler à votre micro, parce que votre radio est une radio crédible. À travers elle, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'acteurs vont comprendre que leur responsabilité est grande et que les Ivoiriens les regardent. Même s'ils ne parlent pas, ils les regardent. Leurs faits et gestes sont scrutés et il est important que vraiment tout soit mis en œuvre pour penser à leurs intérêts, l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire.
Alors, docteur Patrice Saraka, pourquoi votre parti, le COGEP, ne présentera pas de candidats aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023?
Nous avons décidé de ne pas présenter des candidats justement par rapport à la situation électorale souvent tendue en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'acteurs politiques privilégient leur candidature pour des positionnements politiques. Le COGEP qui a la lourde responsabilité de faire en sorte que les Ivoiriens se rassemblent a pris un engagement de contribuer à la cohésion sociale et au rassemblement. Et c'est un grand renoncement pour l'intérêt des Ivoiriens. C'est un pacte que nous prenons avec le peuple de Côte d'Ivoire pour lui dire que nous privilégions l'intérêt du peuple, nous privilégions la vie des Ivoiriens à des positionnements politiques. Voilà ce message fort que nous voulons donner au peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple que nous allons diriger dans les années à venir.
Mais quelle chapelle politique dans l'arène politique nationale le COGEP va soutenir lors de ces élections locales?
Nous avons dit le 14 mai dernier assez clairement que le COGEP ne présentera pas de candidat, mais nous avons précisé sous quelque forme que ce soit. Cela veut dire que nous ne sommes pas dans une logique d'alliance avec quelques partis que ce soit. Et l'alliance qui vaille la peine pour nous, l'alliance prioritaire pour nous, c'est l'alliance avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, nous ne sommes pas dans une logique de faire des alliances. Un parti ne naît pas pour faire des alliances. Un parti naît pour travailler à l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. C'est dans cette démarche que nous sommes.
Je vous remercie, docteur Patrice Saraka.
Bonjour à vous, monsieur Soro.
Docteur Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP, invité de la rédaction, répondait à Soro Adams. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Mise en œuvre en Côte d'Ivoire des activités de la feuille de route à fin mars 2023. L'ensemble des infrastructures attendues sera mise à disposition fin juin prochain, a affirmé le porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres tenu hier mercredi à Abidjan Plateau. À Yamoussoukro, un atelier de formation réunit des professionnels de la santé jusqu'au 27 mai prochain sur le fonctionnement et l'utilisation du système d'information hospitalière et ce, dans le cadre du programme d'accélération et de passage à l'échelle de la digitalisation. Fin de ce journal, prochain rendez-vous de la rédaction 15h pour le Flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Francis Cassie.
Bonjour à tous. La radiation de Laurent Gbagbo de la